Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. La mère Suzelle est née avec le XXe siècle et elle est morte avec lui. Mais ces 100 années, elle les a vécues comme si le monde ne changeait pas d'un poil. Prenez sa maison par exemple, à la limite de Lyon et du Loiret. C'est une de ces fermettes qu'on appelle longères, précisément parce qu'elles sont toutes en longueur. Les pièces habitables se suivent à la queue leu-leu au rez-de-chaussée, dans le même alignement. Vous trouvez l'écurie, l'étable, la grange à foin. Suzelle a su résister jusqu'en 1975 avant de céder aux ultimatums de la mairie et de se résoudre au raccordement d'eau et d'électricité. Bon, en définitive, avoir eu le courant, c'est ma pratique, je dois reconnaître, à cause que j'aime bien écouter Radio Luxembourg. Oui, mais avouez quand même que l'eau courante, ah, ça non, hein, votre eau est toute prête, je m'en sers jamais, elle a un goût. Je préfère 100 fois celle de mon puits. Et puis en plus, elle est gratuite. Quel cabochard de la Suzelle. C'est bien pour ça qu'elle n'a jamais pu supporter un homme. Ce qui ne veut nullement dire qu'elle vivait seule. Dans l'étable et l'écurie, il y avait toujours quelqu'un. Quelqu'un à quatre pattes. La mère Suzelle entretenait des relations d'égal à égal avec ses pensionnaires. Elle leur parlait, leur demandait des conseils. Et lorsqu'un problème intérieur la tracassait, elle se faisait remonter le moral par la jument Adrienne. Cette bestiole avait échappé in extremis au marteau de l'écarisseur. Suzelle l'avait rachetée au poids de la viande, elle l'avait prénommée Adrienne en guise de pied de nez à l'une de ses tantes, qui était aussi une vieille carne. Adrienne vécut encore 15 années aux côtés de Suzelle. Alors ensemble, elle gambadait dans le pré, flânait dans les chemins creux à la tombée du jour. Chaque soir, avant de s'endormir, elles échangeaient des petits toc-toc dans leurs murs mitoyens pour se souhaiter de beaux rêves. Et surtout, leur complicité fut soudée par cette histoire incroyable qui court encore dans la campagne alentour. Ce matin-là, sur le coup de 6 heures, Suzelle va tirer son premier seau d'eau. Elle relève le loquet de l'écurie et dépose un baiser entre les naseaux d'Adrienne. Va donc faire un petit tour, ma belle. Après, t'auras une surprise. Mais tu les as déjà reniflées, pas vrai? Suzelle a repéré de jeunes carottes mûres à point. Dès le lever du soleil, elle a fait un détour par le potager, cueilli une brassée de délicieux légumes et les a entreposés à côté de l'évier pour les nettoyer avant d'en porter la moitié à sa copine. L'autre moitié sera râpée en une délicieuse salade. C'est en remontant du puits vers la ferme qu'elle s'étonne de ne pas sentir la jument collée à ses basques, sa grosse langue cherchant à laper dans le seau comme elle le fait toujours, histoire d'embêter sa maîtresse. Suzelle, la main en visière, parcourt l'horizon, lance 2 ou 3 sifflets sonores, puis hausse les épaules. Oh ! Elle doit être encore à embêter les canards. Elle rentre donc, se met machinalement de biais pour franchir le couloir. Depuis son enfance, elle sait que ce goulet ne permet pas de passer de face en portant le seau. Notez bien ce détail. Le couloir étroit, qui en plus tourne à angle droit pour desservir la chambre à coucher à droite et à gauche la cuisine. Et c'est en débouchant dans la dite cuisine que Suzelle tombe nez à nez, si j'ose dire, avec le derrière de la jument. Le seau de métal rebondit sur le carrelage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Le ciel reste sourd à cet appel parce que lui non plus n'a jamais eu à résoudre pareil casse-tête. Imaginez ça. D'abord le gabarit d'Adrienne. Un solide percheron au pâturon de la surface d'une assiette, une croupe monumentale, un poitrail qui obligerait un cavalier à faire le grand écart pour l'enjamber. Alors maintenant, voyez cette masse dans une cuisine à laquelle on ne peut accéder que par ce corridor biscornu où un homme de taille normale se sentirait serré aux épaules. à l'autre bout de la pièce, ne cherchez pas, elle donne au nord, et on y a aménagé une petite fenêtre pour éviter la perte de chaleur. Pourquoi la jument s'est introduite dans cette cuisine? Ça semble évident. Quelques fans de carottes fraîches dépassent encore au coin de sa bouche. Mais comment? Comment a-t-elle pu bien arriver jusque-là? C'est ce que se demande Suzelle en essayant de faire effectuer un demi-tour à ses quintaux d'os et de muscles. Mais entre l'évier, le fourneau, la table et le buffet, la manœuvre est irréalisable. À un moment, Suzelle étouffe et doit marteler le flanc de la jument de ses poings rageurs. « Pousse-toi donc, vieille carne, tu m'écrases !» Adrienne écarquille un œil navré et souffle bruyamment. « Oh, c'est ça, tu peux bien t'excuser. Si t'étais pas une fiefée gourmande, on n'en serait pas là. Hein. » Le seul moyen, c'est de repartir en marche arrière. Alors Suzelle se glisse dans le couloir, elle attrape à deux mains la queue et tire de toutes ses forces. Mais enfin, c'est pas Dieu possible! La croupe ne passe pas la porte. Suzelle mesure avec son maître de couturière et aucun doute, l'envergure hors tout de l'arrière-train est supérieure de 30 bons centimètres à la largeur du chambranle, qui est la même que celle du couloir. Alors en définitive, Suzelle alerte les pompiers. Ceux-ci se grattent le casque, puis, moyennant quelques contorsions, parviennent à soulever la table et à la grimper sur la cuisinière. Ils peuvent, ric-rac, faire tourner la jument sur elle-même et la présenter face à la porte dans le sens de la marche. Elle est entrée en avant, elle ressortira par l'avant. Eh bien non, ça ne passe pas non plus. La tête émerge dans le couloir, mais à partir de l'encolure, ça coince. Les pompiers appellent les gendarmes, qui se grattent le képi, puis, à tout hasard, ils convoquent un vétérinaire, qui se gratte la barbiche. « Je suis médecin, moi, pas magicien !» Comme il n'y a pas de précisateur dans la région, plus qu'une seule solution. À 6 heures du soir, devant le conseil municipal au grand complet, et tout le village rameuté par le garde champêtre, le cantonnier lève sa pioche et commence à casser le mur nord. 2 heures plus tard, sous les applaudissements, Adrienne s'extirpe elle-même de son piège par une ouverture de 2 mètres de large. Personne n'a jamais pu expliquer comment la jument avait bien pu se glisser au fond de cette maison envers et contre toute possibilité mathématiquement envisageable. Par contre, ceux qui ont connu la vieille dame affirment qu'elle leur a confié un grand secret. Jusqu'à la fin de ma vie, mon Adrienne, elle n'a jamais pu toucher une carotte, et moi non plus d'ailleurs.
Jusqu'à 13h30, Pierre Bellemare est sur RTL.
Les yeux mi-clos, le visage emmailloté de bandelettes, Benoît Baron gît dans la chambre stérile d'un hôpital. Portant masques chirurgicaux et blouses jetables, 3 hommes et une femme se tiennent à ses côtés. Marie Baron, la mère du jeune homme, pleure en silence. Un médecin surveille le bon fonctionnement de la pompe à morphine et un lieutenant de gendarmerie épie les faits et gestes du troisième homme, Jean Congère, un kinésithérapeute. « Détends-toi », susurre ce dernier à l'oreille du blessé. « Ce ne sera pas douloureux. » Le visage impassible du garçon semble moulé dans de la cire. Congère interroge les autres du regard. « Puis-je commencer ?» Le médecin acquiesce. Le gendarme se contente de hausser les épaules. « Faites ce que vous avez à faire », pleurniche la femme. « Vous risquez d'être impressionné. Ne criez pas. Évitez les gestes brusques », recommande le kiné. Durant un instant, seul le ronronnement des machines et les sanglots étouffés de Madame Baron troublent le silence de la chambre. Benoît Baron, 17 ans, traumatisé crânien, va-t-il être capable de se remémorer les circonstances qui ont provoqué son coma? Va-t-il parvenir à reconstituer l'événement, agression ou accident, qui a détruit sa vie? Car pour que justice puisse être rendue, le seul espoir repose maintenant sur cette séance d'hypnose. Le 15 novembre 2004, empruntant une route secondaire, Vincent Seyfrioui rentre chez lui au volant de sa voiture. À la sortie d'un virage, il aperçoit une mobylette couchée en travers de la chaussée. L'engin est disloqué et des taches brunes d'huile et de sang maculent les débris. Plus loin, en contrebas, une main blafarde émerge du talus. Un bras prolonge la main et conduit au corps inerte d'un adolescent. Sefrioui s'arrache de son siège, s'agenouille près de la victime et constate que son pouls a cessé de battre. Les chromes du guidon d'un second vélomoteur attirent bientôt son attention. Non loin de l'épave, un autre garçon gît, inanimé, mais en vie, en lisière d'un champ. Dans l'heure qui suit, les gendarmes identifient sans peine les victimes. Il s'agit de cousins dont les familles respectives habitent à quelques kilomètres de distance. Celui qui est décédé s'appelait Michel Lecoeur. L'autre, qui est entre la vie et la mort dans le service de réanimation de l'hôpital d'Annecy, se nomme Benoît Baron. Benoît, un petit brun costaud, aux cheveux courts, est le troisième d'une famille de quatre enfants. Après une scolarité sans grand éclat, il a obtenu un CAP de mécanique automobile et a trouvé un emploi d'apprenti dans un garage. Et à ses moments perdus, il utilise les outils mis à sa disposition pour enjoliver sa mobylette. Bien sûr, vêtu d'un blouson de cuir vermillon et d'une casquette tournée à l'envers, il frime un peu, Benoît Baron. Mais c'est un garçon calme et travailleur que tout le monde apprécie. Outre la passion pour les deux roues qu'il partage avec Michel Lecoeur, son cousin, Benoît est amoureux d'Agnès, une jeune fille de son âge. Les gendarmes reconstituent sans difficulté l'emploi du temps des adolescents dans les heures qui ont précédé le drame. Benoît a occupé son après-midi à aider un ami à repeindre son scooter. Puis il a dîné en famille avant de sortir vers 20h30. « J'ai rendez-vous avec Agnès », avait-il dit à ses parents. « Je serai de retour dans une heure ou deux. Ne m'attendez pas. » À la sortie du village, Benoît croise Michel sans doute par hasard. Les cousins échangent des confidences, tout en roulant au pas sur une distance d'environ 2 km, jusqu'à l'endroit où leurs corps pantelants seront découverts. Que s'est-il passé exactement sur l'étroite route déserte? Les enquêteurs privilégient d'abord l'hypothèse d'une collision frontale. Ils évoquent à mi-mot le jeu de la mort, ce défi stupide auquel se livrent certains motards, et qui consiste à se croiser en se frôlant à pleine vitesse avant de s'éviter in extremis. C'est absurde! Jamais Benoît n'aurait fait une chose pareille, s'indigne Madame Baron. Il détestait la vitesse. Et puis, il aurait eu trop peur d'abîmer sa mobylette. Au terme de 2 mois de soins intensifs, Benoît émerge enfin du coma. Ses yeux papillonnent, il reconnaît ses parents, ses sœurs, et parvient à bredouiller quelques mots. Le lieutenant de gendarmerie, accouru aussitôt, l'interroge. Vers 21h, tu roulais sur la départementale en compagnie de ton cousin, c'est bien ça. Que s'est-il passé ensuite? Je crois qu'on parlait de filles et de voitures, j'ai mis le blessé. Vous êtes-vous télescopé en roulant l'un vers l'autre? Benoît dévisage le gendarme d'un air ahuri, mais non. Pourquoi aurait-on fait ça? C'est absurde. Une voiture vous a-t-elle heurté de plein fouet? Le front de l'adolescent se plisse de rides douloureuses. Non, je ne crois pas. Je m'en souviens plus. C'est comme si j'avais un trou noir dans la tête. Le gendarme s'en retourne bredouille, tandis que les parents de Michel Lecoeur ignorent toujours les circonstances de la mort de leur fils. Alors pour sortir de l'impasse, le juge d'instruction en charge de l'affaire décide de faire appel à Jean Congère, un kinésithérapeute spécialiste de l'hypnose. Parviendra-t-il à déverrouiller le cerveau traumatisé de l'adolescent, à obliger sa mémoire endommagée à restituer les images de la nuit du drame? C'est l'expérience ultime, celle de la dernière chance. Les 3 premières séances sont peu concluantes. Certes, le trou noir que Benoît prétend avoir dans la tête se comble peu à peu, des réminiscences refont surface, des pans entiers de souvenirs effacés antérieurs à l'accident réapparaissent par lambeaux, mais sa mémoire se refuse encore à livrer ses secrets. Congère tente alors un 4e et dernier essai, et lorsque le blessé est en état d'hypnose profonde, le soignant reprend une nouvelle fois son interrogatoire. Il fait nuit. Tu roules lentement sur ta mobylette aux côtés de Michel. Oui, et Michel me double. Dans ses récits précédents, jamais Benoît n'avait encore franchi cette étape. La voix de Congère s'épaissit dans sa gorge. Michel te dépasse. Vous roulez donc l'un derrière l'autre. Oui. Et puis, j'aperçois des phares. Quatre phares blancs qui foncent sur nous. Tandis que Madame Baron s'enfonce un mouchoir dans la bouche pour ne pas crier, le lieutenant Chevrier s'approche de la tête du lit. Que fait ce véhicule, Benoît ? Le conducteur freine-t-il quand il vous aperçoit ? Oui ? La voiture s'arrête au milieu de la route, à 10 mètres de nous. Elle s'arrête. Très bien. Que se passe-t-il ensuite ? Une portière s'ouvre, nous barre le passage. Le conducteur descend lentement du véhicule. Congère repousse le policier du plat de la main et lui fait signe de se taire. Que fait cet homme, le conducteur de la voiture ? Benoît hésite, ses lèvres tremblent, son corps se crispe douloureusement. Il nous insulte, sans raison. Il nous traite de tous les noms. Il hurle des mots orduriers. Pour quelle raison fait-il ça ? Je sais rien. On n'avait rien fait de mal. Benoît, bien sûr, bien sûr. Que fait ensuite cet homme qui vous insulte ? Il reste là à hurler comme un démon au milieu de la route ? Je pense qu'il était ivre. J'ai peur qu'il nous agresse. Je veux faire demi-tour et mettre les gaz pour rentrer à la maison. Mais Michel marche vers lui. Ton cousin n'apprécie pas les injures. C'est naturel. Ah oui ? Mais je lui dis de laisser tomber. Mais il ne m'écoute pas. Quand il est près de la voiture, deux autres types en sortent et se jettent sur lui. Le kiné tapote la main du blessé. Dans le fond de la chambre, Madame Baron pleure à chaudes larmes. Continue, Benoît, ne t'arrête pas. Est-ce que les hommes frappent Michel ? Il fait nuit. J'arrive pas bien à les distinguer, mais j'entends des cris. Et au bout d'un moment, Michel revient vers moi en chancelant. Il a le nez en sang, il enfonce sa bécane sans rien dire, passe devant moi et fonce sur la route en zigzagant. Congère observe furtivement le gendarme. Il griffonne des notes. Le souffle de l'adolescent s'accélère. Ses pupilles se dilatent. « Que se passe-t-il ensuite ?» demande le kiné. Ben, les trois hommes remontent à bord de leur Golf. « Quelle couleur la Golf ? Sombre ? Marron ? Ou bleu marine ? Un ancien modèle, tout cabossé. Et la voiture démarre ? Oui. Le type au volant, il rate la première. L'embrayage patine. Je me retourne. Les phares blancs sont dans mon dos. Je sens le souffle du pare-choc contre ma roue. Et après, tout devient noir. Fort de ces nouveaux éléments, le médecin légiste réétudie le corps de Michel Lecoeur. Il en déduit que les blessures ont été provoquées par un véhicule. Non content de heurter les garçons, le chauffeur de la Golf a fait marche arrière pour écraser Michel. Éjecté de son vélomoteur, catapulté dans le champ voisin, Benoît a échappé miraculeusement à la folie de l'assassin. Reste aux gendarmes à découvrir l'identité des passagers de la voiture et les raisons qui les ont poussés à commettre ce carnage. Règlement de compte ou altercation qui tourne mal ? Les cousins n'ayant pas d'ennemis connus, les experts concluent que le chauffeur ivre ou drogué a vraisemblablement commis un acte gratuit. L'enquête piétine encore 2 ans, jusqu'au jour où une bagarre éclate à la sortie d'un bar. Des hommes ivres se querellent, échangent des coups. 2 d'entre eux dénoncent publiquement le 3e d'avoir écrasé un gamin sur une route déserte. Des témoins relèvent les numéros des plaques minéralogiques de leur véhicule et alertent la gendarmerie. Accusé d'homicide volontaire, Fernand Méchou est arrêté et passe aux aveux. Il est condamné à une peine de 20 ans de prison pour homicide volontaire et tentative d'homicide. Ses compères, des loups-bars alcooliques, écopent eux de 4 ans de réclusion. Après avoir prononcé le verdict, le juge a posé à l'assassin une ultime question. Vous avez agressé 2 adolescents sans défense. Vous les avez percutés volontairement et vous avez roulé sur le corps de l'un d'entre eux comme pour vous assurer qu'il ne survivrait pas. Pourquoi ? Parce que cette nuit-là, a grincé le condamné, cette nuit-là, j'étais pas d'humeur à supporter que des gamins puissent être heureux.
Pierre Bellemare sur RTL.
Si vous aviez été un membre à part entière de la petite communauté de Saint-Servin à la fin du siècle dernier, vous auriez sûrement dit, comme tous les autres autour de la grande table à l'auberge, c'est pas pour être méchant, mais il n'a pas été élevé comme nous autres, le Quentin, hein ? Il aura beau dire et beau faire, ça se voit. Et ça se verra toujours. D'abord Quentin, C'était le nom de famille du gaillard en question. Les Servinois d'origine ont coutume de s'interpeller par leur prénom. Celui du Cantin, c'était un de ses prénoms à rallonge, un peu prétentiaire, à la mode de la ville. Pierre Arnaud ou Charles-Henri, un truc dans le genre. Alors on disait Cantin, parce que ça, au moins, ça ressemblait à un prénom. À sa retraite, il s'était acheté une maison en briques sur la hauteur, un peu en dehors du village. Il était encore jeune à ce moment-là, dans les 50 ans. Mais il avait eu droit à cette retraite parce qu'il était militaire. Et dans ce métier, les années de combat à l'étranger comptent double, enfin il paraît. Donc il a passé au moins 25 ans à Saint-Servin. Mais ça n'en faisait pas pour autant un vrai Servinois, hein ? En apparence, en vieillissant, il a bien fini par ressembler aux autres vieux. L'allure de vieux, une moustache jaune de tabac comme tous les vieux, costume noir, le dimanche à la messe, non seulement comme tous les vieux, mais comme tous les hommes. N'empêche, dans sa manière de faire avec les autres, il gardait toujours quelque chose de bizarre. Par exemple, Quentin, il disait jamais au revoir. Ah si, ben, jamais, hein. Bonjour, ça d'accord. Il disait bonjour, pendant pas le contraire, hein. Quand on dit pas bonjour, c'est qu'on veut pas parler aux gens. Et pour ça, faudrait être un peu barge, hein, parce que quand vous vivez dans un trou comme Saint-Servin, qu'est-ce que vous pouvez faire bien d'autre que de parler aux gens? Bon. Tenez, même le simple et le fils de Marivonne. Bon, ben, vous savez, celle qui habite toujours avec son frère. Eh bien, il a beau être demeuré, il n'en est pas fou pour autant. Lui, il le dit au revoir, en remuant ses grandes oreilles. Parce que au revoir, ben, ça laisse entendre à l'autre que vous espérez le voir à nouveau, non? Et ça fait plaisir à tout le monde. Eh bien, contrairement au simplet, le Quentin n'avait jamais eu cette politesse. Même qu'un soir, c'était un mercredi, il est passé à l'auberge écluser son pichet de vin chaud. À la grande table des joueurs de cartes, les gars échangeaient des regards par en dessous en guettant le moment du départ. Réglé comme du papier à musique. Quentin a regardé dehors la lumière qui baissait. Il a renversé la tête en arrière pour bien vider son gobelet. Il a pris sa gabardine. « Allez, je me retire vers mon quartier général !» Et il s'est dirigé vers la porte. Alors dans son dos, toute la salle a entonné en chœur « Au revoir, Quentin ! Au revoir, Quentin ! Au revoir !» Il s'est arrêté une demi-seconde, il a souri gentiment dans sa moustache, et il est sorti. Le mercredi suivant, comme si de rien n'était, il est revenu, il a suspendu sa gabardine, il est allé au guichet de la cuisine prendre son pichet et son godet, et il s'est assis. Quand les autres ont vu que le Quentin ne prenait pas ombrage d'avoir été mis en boîte, ils sont venus à deux ou trois tirer leur chaise vers lui. Il y en a même un qui s'est lancé carrément. Alors, comme ça, tu dis jamais au revoir. Ben non. Et ça serait-il un effet de ta bonté de nous expliquer pourquoi? Ben, parce que ça sert à rien, pardi. Vous n'avez pas l'intention de quitter Saint-Servin que je sache. Et moi non plus. Donc, je sais que je vous reverrai, forcément, demain ou après-demain, bon, et tous les jours que Dieu fait. Tu m'as l'air bien sûr de toi, l'ami. Qui donc sur cette terre peut jurer ce que sera le lendemain? Surtout que, sans vouloir jouer les oiseaux de malheur, t'es plus un jeune homme, Quentin. Alors comment tu peux savoir? Ben, je le sais. Je sais parce que je le sais, hein. Point à la ligne. Et le jour où ça sera plus une certitude, eh ben, je serai aussi. Je ne voulais rien dire. On n'a pas insisté. Bon. Autant le laisser à ses petites manies. On aimait bien écouter ces histoires sur des pays lointains, des opérations héroïques qui ressemblaient à ce qu'on peut voir dans les films américains. Aucune assurance que c'était vraiment vrai, mais il racontait drôlement bien, hein. Et puis les choses sont allées très vite. C'était un jeudi. Oh, tout le monde s'en souvient. Il avait vidé son pichet la veille au soir comme d'habitude. Et là, on le revoit dès le matin en ville et en plus avec son costume noir. Un jour de semaine. Sous le bras, il transportait une boîte à biscuits en fer. Et tout ce qu'il a fait par la suite, ça a été sans se cacher, sans se gêner. Une tournée qui n'est pas près de sortir des mémoires. D'abord, il est parti à 3 km sur la Nationale jusqu'à la carrière de pierre, exploitée par Jacob, l'Italien. Il a commandé une dalle. Oui, une dalle de 2 mètres sur 1,50 m. Et il a demandé à Jacobi de graver son nom dessus. Il lui a même écrit pour que le Rital ne fasse pas d'erreur d'orthographe. Il a payé. Payé comptant. Avec des billets presque neufs qu'il sortait de sa boîte de biscuits. Ensuite, il est allé chez le maréchal Ferrand. Là, il a sorti un dessin tout préparé, une croix en fer forgé, toute simple, avec juste un cœur en pointe au bout de chaque branche, et pareil, il a réglé rubis sur l'angle. Toujours avec sa boîte, il est passé chez Parisot, le menuisier, qui en est resté comme de ronde flanc quand le Quentin, frais, rose et gaillard, comme à son habitude, lui a acheté un cercueil. Il a voulu payer tout de suite, comme si ça ne pouvait pas attendre. Après quoi, il a traversé la place, il est entré par la deuxième porte de l'auberge, celle où il y a la pancarte épicerie, salon de coiffure, il s'est fait raser de près avec un supplément de lotion à la violette. Et ensuite, il est allé d'un bon pas vers chez lui, arrivé sur le seuil de la maison, il s'est affalé doucement contre sa porte, mort. Mort autant qu'on peut l'être quand c'est pour de bon et sans espoir de retour. À Saint-Servin, tous ceux qui l'ont croisé pendant ce périple incroyable pourront témoigner que ça s'est bien passé comme ça. Ah, une autre chose, qu'ils ne vous diront peut-être pas, c'est qu'ils ont pleuré en le voyant repartir. Parce que ce jour-là, le Quentin, il est allé vers chacun. En approchant, il n'a pas dit une seule fois bonjour. Par contre, il prenait votre main entre les siennes, et en vous regardant au fond des yeux, il disait juste « Au revoir ».
Les incroyables histoires de Pierre Bellemare, réalisées par Gaïa Becco, rédaction
Grégory Franck,
Jean-François Namias et Jérôme Ecker, documentation Francine Vincent.